Merci Mathilde pour cet exposé qui fait froid dans le dos, je suppose. Enfin, si vous avez un peu de chaleur humaine en vous. Et qui est extrêmement inquiétant parce que, en fait, ce sont les prémices de ce que on pourrait imaginer comme étant le déroulé à venir de la présentation et de la réception, j'allais dire de l'accueil, mais j'ose même pas dire d'accueil, de traitement des demandeurs d'asile arrivant sur le territoire européen. Ça n'est, à mon avis, que... Enfin, c'est dans ce que Mathilde nous a décrit, qu'un élément dans la chaîne des événements auxquels doit affronter le demandeur d'asile. Bon, là, la situation dans les hotspots grecs est particulièrement épouvantable et particulièrement indigne. Donc, on espère qu'ils vont en sortir le plus vite possible. Mais il y a des hotspots dans d'autres pays, par exemple en Italie. Et donc, l'idée qu'il y ait des lieux de réception de demandeurs d'asile qui permettent de faire un tri préalable est une idée qui est en train de se généraliser. Et on va le voir en filigrane. Elle n'est pas annoncée telle que. On n'a pas dit qu'il y allait y avoir généralisation des hotspots. Mais toutes les propositions qui sont faites vont dans l'idée que, finalement, techniquement, le hotspot permettra de traiter les questions. Donc, vous vous souvenez peut-être, pour ceux d'entre vous, dans tous les cas, que ces questions intéressent sur le long terme, que lorsqu'il y a eu une arrivée importante de réfugiés syriens sur le territoire de l'Union européenne, les États membres se sont trouvés dans l'incapacité de pouvoir répondre à cette demande et que la Commission européenne, qui venait tout juste de faire adopter par les différents États membres une nouvelle législation sur l'asile, a décidé qu'il fallait la réformer. C'est-à-dire que à peine la législation de 2015 étant entrée en vigueur, sans même qu'on ait eu le temps de vérifier qu'elle fonctionnait, qu'elle répondait à ses objectifs, la Commission européenne nous a présenté tout un paquet, ce qu'on appelle un paquet asile, réformant l'ensemble de la procédure, réformant l'ensemble des conditions d'accueil, réformant la qualification, c'est-à-dire les conditions de reconnaissance de la possibilité d'obtenir le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, et bien évidemment proposant de réformer le fameux règlement Dublin. L'obsession de la Commission, elle est de deux natures. Il y a une obsession sur « il faut absolument empêcher les mouvements secondaires ». Ça, c'est l'obsession qui est notamment liée à Dublin, mais enfin, à l'application ou à la non-application du règlement Dublin, mais également à l'existence de ce que nous, Européens, nous apprécions depuis fort longtemps, c'est-à-dire la création d'un espace Schengen, d'un espace sans frontières. À partir du moment où on est dans l'Union européenne, on doit pouvoir circuler d'un pays à l'autre. Bon, donc ça facilite évidemment les mouvements secondaires des demandeurs d'asile, de ceux qui ne sont pas satisfaits des conditions d'accueil, par exemple, dans le premier pays où ils sont arrivés. La deuxième obsession de l'Union européenne, c'est que elle est persuadée que les problèmes disparaîtront lorsque les systèmes d'asile des différents États membres seront uniformes. Et donc, depuis 15 ans, elle nous propose d'uniformiser ces systèmes d'asile dans les différents pays européens. Elle nous propose de les uniformiser. Alors, dans un premier temps, c'était sur la base de directives accueil, directives qualification, directives procédure, mais un règlement Dublin fixant effectivement la responsabilité de l'examen de la demande d'asile au premier pays d'entrée dans l'Union européenne par lequel arrive le demandeur d'asile. Là, c'était un règlement. Les directives, vous avez peut-être suivi les débats parlementaires en France, les directives, ça s'aménage dans la législation nationale. La directive, elle ne s'applique pas immédiatement avec toutes les normes. La directive, on tient compte de l'état, de la situation, des problèmes sociaux, par exemple. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a des différences notables entre les différents pays européens sur les conditions d'accueil, sur la qualification du statut de réfugié, sur les procédures qui sont appliquées. Las. On peut dire qu'il y a un système uniforme dans l'Union européenne, on sait bien et on voit bien qu'il n'y a pas d'uniformité, la preuve. Et les conséquences, c'est que les demandeurs d'asile ne sont pas idiots et ils essaient effectivement de glisser vers des pays dans lesquels ils peuvent espérer retrouver des conditions plus favorables pour pouvoir s'intégrer ou dans lesquels existent déjà des membres de leur famille. Donc, la philosophie des réformes repose sur une espèce d'entêtement imbécile, on ne peut pas dire les choses autrement, de la Commission européenne. Elle s'est d'ailleurs rendue compte, en 2016, qu'il fallait qu'elle, finalement, elle prenne parti de ce qu'elle ne parviendrait jamais à obtenir des régimes d'asile totalement uniformes entre les différents pays membres. Donc, elle a décidé de passer par voie réglementaire. C'est-à-dire d'imposer des règlements, des normes en matière de qualification, des normes en matière de procédure aux différents États membres, venant s'ajouter aux normes concernant le règlement Dublin. Le seul domaine dans lequel elle n'a pas osé imposer des normes homogènes à tous les pays européens, c'était sur l'accueil, en se basant sur le fait que les systèmes sociaux, les conditions d'hébergement, les conditions de vie dans les différents pays pouvaient montrer des différences trop importantes pour que l'on puisse l'imposer. Et je dirais entre nous, heureusement, parce que sinon, on se serait mis sur la base minimale des systèmes sociaux, c'est-à-dire qu'effectivement, les conditions d'accueil qui auraient été imposées aux États membres auraient été tellement minimes que c'était revenir, en fait, à refuser de les prendre en charge de façon digne. Bon, dans cette réforme, et c'était la question que m'a demandé de traiter Odile, il y a la question de Dublin qui est directement liée au hotspot. La question de Dublin, donc la Commission européenne a proposé un Dublin 4. C'est-à-dire, on venait tout juste de mettre en œuvre le Dublin 3 et on est passé à une proposition de Dublin 4. Dans ce projet de réforme de Dublin, il y a deux objectifs. Plus, bien évidemment, supprimer et réduire les mouvements secondaires. Je veux dire que ça reste une obsession permanente. Pas que de la Commission d'ailleurs, des États membres également. Mais c'est revenir sur les questions de la responsabilité du traitement de la réception des demandeurs d'asile et sur la solidarité entre les États membres. Sachant que les arrivées aux frontières de l'Union européenne, notamment dans les pays du Sud, mais on peut également parler de la Bulgarie, les pays frontières, posent évidemment des problèmes de conditions de réception pour les demandeurs d'asile et que la Grèce n'a pas fait beaucoup d'efforts pour être accueillante, mais de toute façon, effectivement, le nombre de personnes qui sont arrivées en Grèce en 2015, en 2016, représentait une masse extrêmement importante par rapport à ceux qui sont arrivés en France. En France, on a de la chance. En France, on avait tous les pays du Sud pour nous protéger, tous les pays de l'Est pour nous protéger, et entre deux, nous avions l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, donc effectivement, et à l'époque, il n'y avait pas encore une forte augmentation de la demande en Espagne. Donc la France était largement protégée, elle n'a pas subi le mouvement, la crise, comme on dit, la crise de la migration, la crise des réfugiés. Pas du tout dans les mêmes proportions que d'autres pays. Donc, elle peut toujours essayer de donner des leçons aux autres. C'est vrai qu'elle ne se trouvait pas dans cette situation. Dans le projet précis de la Commission, elle considère que le pays, que l'État membre de réception, de première arrivée, doit examiner, avant même que l'on entre dans une procédure de Dublin, doit examiner la recevabilité de la demande. Exactement ce qui se passe dans les hotspots. C'est-à-dire, avant même de permettre à des personnes de présenter une demande d'asile, on doit vérifier que finalement elles sont justifiées à présenter une demande d'asile, elles sont justifiées à demander une protection internationale. Et parmi les éléments qui font que ces demandes sont considérées comme non justifiées, nous avons le fait qu'ils puissent venir de pays d'origine sûre, de pays tiers sûrs, de premiers pays d'asile. Et on rajoutera, en fait, ce qui existe actuellement dans la qualification de zones de protection régionale, de zones de protection interne dans des pays tiers. Pourquoi ? Parce que dans tous ces endroits-là, finalement, ils étaient recevables à l'asile ou ils avaient une forme de protection. Donc, non recevables sur le territoire européen. C'était donc un pays comme la Grèce. Un pays comme l'Italie, ce serait donc un pays comme la Grèce, un pays comme l'Italie, de dire si la demande est recevable. Et s'il juge qu'elle n'est pas recevable, c'est à lui de prendre les mesures, et là on en arrive à l'exposé suivant, n'est-ce pas ? C'est à lui de prendre les mesures pour faire en sorte que ce demandeur d'asile ne reste pas sur le territoire européen. donc en fait pratiquer le renvoi vers le pays d'origine sûre, vers le pays tiers sûr. Pays tiers sûr, c'est la Turquie. La Turquie n'est pas un pays d'origine sûre, mais c'est considéré comme dans les concepts de pays tiers sûr. Donc, le renvoi vers ces pays-là. Et ensuite, ils gardent ceux qui sont considérés comme recevables. Et à partir de là, c'est là que la Commission a innové, mais en même temps qu'elle a mis en colère nombre d'États membres, elle a innové en disant, bon, ça ne va pas suffire pour atténuer l'importance des arrivées sur un territoire comme la Grèce ou comme l'Italie, ou comme l'Espagne actuellement. Il faut donc qu'il y ait une manifestation de solidarité des autres États membres à l'égard de ces demandeurs d'asile jugés recevables. Et que donc, il va y avoir un transfert de ces demandeurs, d'une partie de ces demandeurs, vers d'autres pays, selon des critères, je ne vais pas entrer dans les détails, parce que là, il y a eu des bagarres, des critères qui en tenant compte du fait qu'il y avait des pays qui avaient très peu de demandes d'asile, donc la France aurait forcément été destinataire par rapport à d'autres, mais vous avez d'autres pays dans lesquels il n'y a pas beaucoup de demandes d'asile non plus. La Slovaquie, ce n'est pas un pays vers lequel les migrants se précipitent, dans tous les cas à l'époque. Alors, actuellement, je n'ai pas les dernières chiffres, mais je crois qu'ils ne sont pas très nombreux par rapport à d'autres régions. Et donc, une répartition entre les différents États de l'Union européenne de ces personnes. Avec, et c'est là qu'il y a eu débat avec le Parlement européen, heureusement que le Parlement européen est intervenu, avec en fait une possibilité de choix pour le demandeur d'asile en fonction d'un certain nombre de critères. Des critères qui tiennent compte de l'existence de membres de la famille dans d'autres pays, de critères linguistiques, de critères ainsi de suite, qui permettent en fait de favoriser l'intégration. Ça, ce sont des éléments qui ont été introduits par le Parlement européen, qui ne figuraient pas dans la proposition de la Commission, sauf le critère de réunification familiale, puisque de toute façon, il fait déjà partie du règlement Dublin. L'autre élément de procédure, et vous allez comprendre pourquoi ça fait hurler certains, l'autre élément de procédure, c'est que tous ceux qui sont jugés recevables, mais qui ne sont pas re-répartis dans d'autres pays, sont placés sous la responsabilité, quasiment ad vitam aeternam, du premier pays d'accueil. Ce qui veut dire qu'ils les gardent, et ils doivent les garder. Alors vous imaginez bien qu'il y a un certain nombre d'États qui se sont totalement opposés à cette proposition, c'était les États de premier accueil. Chypre, la Grèce, l'Espagne, Malte, j'en oublie un, l'Italie, bien sûr. Cela, vous considérez que c'était un système absolument impossible à mettre en œuvre et dont ils ne voulaient pas parce qu'ils reproduisaient les défauts de ceux qu'ils vivaient. Et puis, il y en a d'autres qui se sont également opposés à cette réforme, mais pour d'autres raisons. Ce sont les pays du bloc de Visegrad, qu'on a considéré qu'il était hors de question qu'ils prennent chez eux des demandeurs d'asile qui n'étaient pas arrivés chez eux et qu'ils participent donc à cette répartition et à cette solidarité européenne. Donc si vous comptez, nous en avons 5 dans le premier cas, 4 dans le deuxième, ça fait 9 États, ça fait déjà beaucoup d'opposants au système de Dublin tel qu'il a été proposé par la Commission européenne. Autant dire que le projet tel qu'il a été formulé par l'Union européenne et même révisé par le Parlement, amélioré, enfin à la marge par le Parlement, est bloqué. En fait, tout le paquet de réformes de l'asile est bloqué. Parce que dans les réunions du Conseil, les différentes réunions du Conseil, à chaque fois ils disent « de toute façon, il faut qu'on négocie tout en même temps ». Ils ont un peu peur que l'on négocie la qualification ou la procédure et pas Dublin, donc ils veulent que tout soit réglé en même temps. Donc, pour l'instant, il n'y a absolument rien qui soit réglé. Le Parlement, pour l'instant, alors Marie-Christine Vergiat nous dira s'il peut maintenir cette position, maintient les propositions qu'il avait faites sur les propositions de la Commission, c'est-à-dire en fait les amendements qu'il avait apportés au projet de la Commission sur l'ensemble du paquet asile. Et s'il maintient ses positions sur un certain nombre de points, il est évident que nous aurons en face des États membres qui continueront à bloquer. Alors, heureuse surprise, est arrivé Macron. Et Macron, jugeant que dans sa politique où il fallait être humaniste, humain, il fallait quand même prendre en charge ces migrants qu'on avait eu du mal à faire venir ou à faire traverser la Méditerranée, a fait une proposition qui est une proposition qui a un titre, j'oublie tout le temps le titre de... j'oublie tout, le mécanisme de solidarité temporaire. Ce mécanisme de solidarité temporaire par lequel tout migrant débarquant des bateaux sur les côtes italiennes, grecques ou espagnoles seront répartis entre des États membres. Tous les États membres n'ont pas donné leur accord pour l'instant, mais il y en a un certain nombre. Bien évidemment, vous n'avez pas les États membres qui étaient opposés, du moins ceux de Visegrad. Mais, donc, une répartition entre des États membres sur une base volontaire, pour l'instant. Reste que, dans cette répartition sur la base volontaire, il y a l'idée qu'on va examiner, là aussi, la recevabilité de la demande d'asile des personnes débarquées. C'est-à-dire qu'on va dire, oui, celui-là peut prétendre à une protection, mais celui-là, non. Et donc, en parallèle de ce mécanisme de solidarité temporaire, nous avons la mise en place d'un mécanisme de retour et de renvoi vers les pays tiers. Renvoi aidé, dit-on. C'est-à-dire avec des fonds apportés par l'Office international des migrations. Mais renvoi forcé. Ce n'est pas parce que vous avez accepté une somme pour repartir que vous aviez envie de repartir et que vous vouliez repartir. Donc nous avons là, finalement, l'articulation entre une proposition qui vise à essayer d'aménager. Alors, ce n'est pas le futur Dublin, mais c'est quelque chose qui pourrait venir se rajouter à un Dublin quelconque. Je ne sais pas s'il sera 4 ou 5 ou 3 plus répartitions. Et une politique de renforcement des retours de façon à ne pas garder sur le territoire européen ceux qui, dont on estime qu'ils n'ont pas à y être parce qu'ils n'ont pas besoin d'être protégés. Bon, c'est à l'arrache, hein, ce que je vous ai dit, mais je ne suis pas certaine que nous puissions envisager d'avoir un système d'asile européen crédible et surtout humain, comme diraient certains, et qui conduise à une uniformité des politiques dans les différents États membres. Alors je voulais reprendre Odile justement sur ce point, parce que tu nous as dit la maltraitance que l'Union européenne inflige aux migrants et aux réfugiés. En fait, c'est pas l'Union européenne en tant que telle. C'est pas l'Union européenne en tant que telle. C'est finalement la latitude que les États membres se donnent, avec toujours l'excuse. L'Union européenne l'a dit, nous avons la directive européenne qui nous autorise, le règlement Dublin nous y oblige. Et avec cela, nous avons par exemple les pays d'origine sûrs qui vont devenir une généralité dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne parce que il y a dans le projet de réforme de l'asile au niveau de l'Union européenne, il y a l'adoption d'une liste obligatoire de pays d'origine sûrs, parmi lesquels figurent bien évidemment l'Albanie et la Géorgie, mais qui sont les nationalités qui posent problème actuellement à la France. Mais il y en a d'autres, il y a la Moldavie, il y a en fait tout le pourtour de l'Est de l'Union européenne qui en fait partie, et puis vous avez de plus en plus d'États membres qui considèrent que les pays du Maghreb pourraient être considérés comme des pays d'origine sûrs, la Tunisie, l'Algérie. Tout de suite, ce n'est pas tout à fait le cas, mais ça l'était il y a quelques mois. Le Maroc, la Libye, personne n'a encore osé le dire, mais ça n'empêche que l'on puisse envisager des renvois vers ce pays parce qu'ils ont été interceptés en mer et que ce sont les confiés aux gardes-côtes libyens et que les gardes-côtes libyens, de toute façon, vont les renvoyer sur le territoire libyen. Donc, on est dans un dessin qui est plus un dessin de rejet, de protection, j'allais dire de protection sanitaire de l'Union européenne dans toutes ses frontières, plutôt que le dessin d'une proposition de véritablement prise en charge de la demande internationale de protection. Alors que nous savons que cette demande internationale ne va pas cesser d'augmenter. Le HCR est en train de nous dire que les Vénézuéliens et l'Espagne est en train de s'en rendre compte, que les Vénézuéliens vont arriver. Il y a un certain nombre de Français qui nous disent, mais ça c'est pour nous faire peur, que les Algériens vont arriver. Mais il y a toujours des pays d'Afrique subsaharienne qui vont continuer d'arriver, quels que soient les efforts que nous mettions en place place pour essayer de le retenir au-delà de nos frontières. Le migrant, s'il a un projet migratoire, trouve en général les moyens de mener ce projet jusqu'au bout, quitte à en mourir, ce qui est aussi l'une des responsabilités de l'Union européenne.